baissons nos yeux et prions. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu fidèle. Nous voulons te remercier une nouvelle fois parce que tu nous as accordé la possibilité de nous réveiller ce matin et de démarrer cette journée avec toi. Seigneur, si tu ne nous avais pas réveillés à cause d'une certaine chose, ça aurait été une grande tragédie. Et c'est pourquoi nous te demandons, conduis-nous, encourage-nous. Donne-nous la force. Et aujourd'hui, nous voulons te présenter l'orateur qui va parler et toute l'assemblée qui va l'écouter. Nous te prions, Esprit Saint, que tu puisses parler. Parle-nous, Seigneur Jésus. Ton Église écoute. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. De la chorale de jeunes de venir chanter.
One. us to Jesus one by one. Go with boldness as you witness in the strength that God supplies. Soon our Savior will reward us when he calls.
Chorale de jeunes. Si tu souhaites créer une différence, faire une différence dans ce monde, si tu veux changer ce monde par la grâce de Dieu, si nous voulons changer notre pays, alors vous devez être différent. N'ayez pas peur d'être différent. Si vous n'êtes pas différent, alors vous ne pouvez apporter un changement. Les chrétiens sont différents. Nous allons démarrer. Nous allons demander à Elias Kohler d'introduire son ministère de la société biblique. Merci beaucoup d'être venu. Nous apprécions cela. Que Dieu puisse te bénir. Premièrement, j'aimerais saluer le pasteur Stegen. Nous remercions le Seigneur qui nous a encore préservé, que Dieu l'a encore préservé pour nous, à garder. Et j'aimerais saluer chacun d'entre vous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Brièvement, je vais parler de deux points. L'œuvre de la société biblique. Et ensuite, le travail sur une nouvelle traduction Zoulou. Je J'aimerais demander demander à une dame de lire une traduction zoulou de 1959 et ensuite un frère qui lira également un passage. Je vais leur demander de se lever quand j'arrive à ce point. Donc, il s'agit de l'œuvre de la Société biblique en Afrique du Sud. Cela permet de vérifier que la Bible est traduite dans différentes langues. Également, l'impression de ces Bibles, et donc ces Bibles sont distribuées au travers du pays. Il y a également certains programmes qui sont effectués. Nous distribuons gratuitement des Bibles dans les prisons. Donnons également des Bibles à ceux qui ne peuvent pas se le permettre. Donnons également des Bibles aux élèves qui sont en grade 7. Ça doit être la troisième en France. Nous aidons également les élèves en leur fournissant des textes pour leur apprendre à lire et à écrire. Il y a également des petits tracts concernant la Bible qui sont donnés gratuitement. Cela est possible par les dons, le soutien de vous, frères et sœurs. S'il vous plaît, soutenez cette société biblique. C'est une association sans profit. Je me réjouis de pouvoir vous annoncer la traduction d'une nouvelle version de la traduction en zoulou, la Bible. Le pasteur Kenan Bata, qui était un des orateurs hier, il a eu un rôle très important dans la traduction de cette version. Demander de se lever, que nous puissions l'applaudir. C'est lui qui a veillé à ce que chaque verset soit traduit d'une façon correcte. nous lisons bien notre Bible. N'en est-il pas ainsi? Je vous pose la question. Qu'est-ce que Jacob a fait face à l'ange? Et qu'est-ce que les anges ont fait? Est-ce que vous êtes d'accord que les anges sont descendus et sont remontés? La majorité des gens disent qu'ils sont descendus et sont remontés. D'où est-ce que vous tenez cela? Alors nous allons corriger cela parce que les anges sont montés et sont redescendus. Si nous lisons dans la traduction Zouzlou, qu'est-ce qu'il en est? En Zouzlou, il y a une phrase qui dit qu'on monte et on descend, on le dit ainsi. Mais nous nous séparons de la Bible, nous quittons la Bible si nous disons qu'ils sont descendus et qu'ils sont remontés. Ils sont montés et sont descendus. Cette échelle allait de la terre vers le ciel. Il y a ceux qui sont entêtés. Ils ne veulent pas. Acceptez cela. On va lire dans Jérémie 17, verset 8. Donc c'est une version de 1959. N'ayez pas peur de venir de l'avant. Vous dites que vous lisez votre Bible, mais qu'est-ce qu'il en est? Donc Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le comprendre en anglais? Qui peut le comprendre? Ça, c'est le défi que les traducteurs font face dans la traduction zoulou. Donc, le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Alors, ils l'ont mis différemment parce qu'ils l'ont entendu dans l'anglais. Si nous lisons la traduction zoulou, il est important et essentiel que nous comprenions ce qui est écrit. Parce que nous pouvons en parler et dire qui peut le connaître. Mais la Bible le dit différemment. C'est le changement d'intonation qui change la signification. J'en demandais à une des... Dans Ésaïe 4, 9, on m'a demandé à une dame de venir le lire. On ne va pas le lire en anglais au début. C'est un verset important. Et un verset qui est important pour les épouses, les femmes. Une sœur qui peut venir ne voulait pas prendre cette occasion. c'est en rapport avec la traduction zoulou. Et il y a une façon toute particulière dont les choses sont présentées dans ce verset. Suivant comment nous le lisons, nous pouvons avoir une signification différente. Si vous, les hommes, n'abusez pas des femmes. Que le jour viendra où ils prendront, ils agripperont cet homme. J'aime ce verset. Suivant l'intonation de la voix, ça peut avoir deux significations différentes. Vous, les femmes, votre jour de rétribution va venir. Vous allez recevoir, vous qui êtes abusés par les hommes. La nouvelle traduction de 2020 enlève cette signification. Et il sera dit en ces jours. Les femmes auront un mari, un homme. Si j'ai bien compris. Nous avons cette responsabilité de lire la Bible, de la lire à nos assemblées, utiliser la Bible afin que notre pays puisse être changé. Traduire la Bible et la lire dans différentes langues. c'est le noyau, ce qui est au cœur de notre nation. Et vous, hommes qui abusez des femmes, vous allez continuer à faire ainsi, comme la traduction Zulu le dit. Merci beaucoup à Dr. Sithole. C'est bien pour nous de continuer à apprendre. Avant de demander à Dr. Hammond de venir, il y a tant sur mon cœur. Et parfois, il faut que je me retienne. Parce que chaque culte a été une réelle bénédiction. Mais il y a quelque chose que j'aimerais faire. J'aimerais, vous, les pasteurs, que vous puissiez regarder cela. Ici, il y a deux morceaux de charbon. Nous ne savons pas ce qu'il dit, que c'est vrai que lorsqu'il y a, quand il n'y a pas d'électricité dans notre pays, c'est parce qu'il y a un manque de charbon. Nous ne savons pas si cela est vrai. Celui-là, il est plus gros et celui-là, c'est un petit. J'aimerais vous demander qui est celui qui va brûler le plus vite. Le plus petit. Mais peut-être nous, en tant que pasteurs, on se ressent grand comme cela, comme celui-là. Le culte en rapport avec le pasteur Stegen hier, Dieu lui a dit, tu es trop grand à tes yeux, je ne peux pas t'utiliser. Oui, je sais, je comprends, vous applaudissez, vous êtes d'accord. Mais si nous restons grands à nos yeux, alors rien, les choses vont aller en arrière. Que Dieu puisse nous aider. Nous avons besoin de ce feu qui brûle, chers frères et sœurs. Ce charbon doit être rouge pour qu'il puisse se répandre dans le pays. C'est pourquoi le Seigneur a dit, « Soyez comme des petits enfants, comme un enfant. » Parce qu'ils sont prêts à recevoir et à accepter. Nous sommes remplis de connaissances, nous savons tant. Nous utilisons notre propre pensée et Dieu ne peut pas nous utiliser. Je dis cela délibérément parce que nous ne voulons pas que notre pays parte à la ruine. Je ne sais pas pourquoi il en est ainsi, mais ce feu ne veut pas brûler à cause de ces gros morceaux de charbon. Et à cause de cela, notre pays part dans une tangente. Vous, pasteur, la Bible ne dit pas « Béni est celui qui entend et qui parle et qui est d'accord avec tout. » Mais la Bible dit et béni celui qui fait, et il y a des actes qui accompagnent votre foi, non pas ceux qui commencent à parler et tu peux parler jusqu'à le soufflement de la mort, mais en clair l'eau, pasteur Stegen, il a mis sa foi dans les actes. Le défi est démarrons à Jérusalem. Commençons à la maison. Commençons à la maison avec l'épouse ou l'époux, avec les enfants. Alors nous pouvons nous diriger vers les églises. Notre défi est. Et qui c'est qui va entreprendre cela? Parce que ce n'est pas une chose facile. Ça ne change rien de dire nous avons la solution et nous allons prêcher aux multitudes, mais à la maison c'est un bazar, il y a des arguments, des disputes, et même dans l'église tu leur prêches et ils argumentent et se disputent les uns les autres, et nous devons commencer par la maison, que ce charbon puisse brûler. Et alors, il peut enclencher un feu. Si vous prenez un morceau de charbon, cela ressemble à rien, ça ne salit que nos mains. Ça ne fait rien d'autre. Donc, on va s'arrêter là. Nous allons demander au pasteur Dr. Hammond. C'est un frère très cher à nous. Nous l'avons visité ces derniers jours au Cap et nous l'apprécions vraiment. Son culte lundi soir, le culte de lundi soir m'a vraiment touchée et j'ai pensé à Dr. Hammond. ces missionnaires. Venait d'Angleterre, il était un homme malade. Il a dit, si je ne peux plus avancer, alors laissez-moi au bord de la rivière, sur un rocher, et c'est là que je vais parler aux âmes perdues. Et alors j'ai dû penser à Dr. Peter Hammond. Monsieur, vous êtes fait de la même trempe que cet homme. Dr. Peter Hammond est du Cap. Il est né en 1960, comme moi-même. Il s'est converti à Christ en 1977. Il a travaillé dans l'union des communions. Marié à Lenora, pardon, j'ai manqué un morceau de sa traduction. Et Dieu a repris sa femme il y a 16 mois. Et vous savez, j'ai appris quelque chose. Nous devons veiller et prendre soin les uns des autres. Si nous perdons quelqu'un qui est de bien-aimé, c'est difficile ensuite. Il a 4 enfants. Pendant 40 ans, il était un pionnier en faisant l'évangélisation dans des pays sous la guerre comme l'Angola. Donc des pays difficiles. Et pendant toutes ces années, vous savez ce qui m'a touchée? Il s'est rendu en Afrique. On pourrait aller dans différents endroits, mais pour moi, c'est si clair. Je ne suis pas un prophète. Mais peut-être qu'il est temps pour l'Afrique de se tenir sur ses pieds. Le fondateur et directeur de l'Afrique Connexion et de la société de réformation et de l'Alliance africaine des frontières africaines. Dr. Peter Hammond a écrit de livres, éditeur de beaucoup de magazines. Mais j'aimerais dire cela à nouveau, Dr. Peter Hammond. Nous te connaissons comme un homme qui veut servir son maître. Et je te vois comme ce missionnaire qui a dit « Je ne peux rien faire d'autre, mettez-moi au bord du gouffre de l'enfer pour que je puisse prêcher. » Nous te laissons la place et que Dieu soit avec toi.
Thank you very much.
Merci beaucoup. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une semaine en arrière, j'étais dans les soins intensifs dans un hôpital à Cape Town. Mardi dernier, j'ai eu une attaque. Je me suis retrouvée par terre, sur le sol, avec une conviction très forte que j'étais en train de mourir. Je ne suis là que par la grâce de Dieu et la prière de beaucoup d'entre vous. Dans l'armée, les sauts d'obstacles font partie de l'entraînement. Des grands murs, des fosses remplies de toutes sortes de débris. Mais ces sauts d'obstacles ne sont pas là pour t'arrêter. Ces obstacles sont là juste pour vous entraîner à avoir la victoire. Beaucoup de ces pays où je me suis rendue étaient des pays fermés, où l'accès était restreint. Et beaucoup de gens disaient « c'est impossible ». Cette rivière ne peut pas être traversée. Cela ne peut pas être fait. Ce n'est pas le bon moment. Tu n'es pas la bonne personne. Ce n'est pas le bon chemin. Abandonne et retourne en arrière. Mais les obstacles ne sont là que pour être vaincus. Le thème de cette conférence, comme le Seigneur m'a envoyé, je vous envoie également. Pourquoi est-ce que nous avons été envoyés? Nous avons été envoyés pour prêcher le message de la repentance. Et comme le professeur Martin Luther l'a mentionné à son époque, notre première priorité est la repentance. Toute la vie d'un croyant doit être basée sur la repentance. La repentance n'est pas quelque chose que nous faisons avant de devenir chrétien. Toute la vie d'un croyant doit être une vie de repentance. De reconnaître que Dieu est un Dieu saint. Et nous sommes des hommes pécheurs. Et à la fin, les pasteurs peuvent dire, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Le Seigneur a mis sur mon cœur ce message avec ce titre. Avant, quand j'ai su le thème de la conférence, le culte de la vraie repentance. Et il y a un homme dans la Bible qui est réellement un portrait pratique de cela, le roi David. Le nom de David est mentionné plus de 1000 fois dans la Bible. Bien plus souvent que Moïse. 3 fois plus qu'Abraham. Douze fois, notre Seigneur est mentionné dans les évangiles comme le fils de David. Si vous demandez à un croyant moyen ce qu'il sait du roi David, la plupart se souviendront de sa plus grande victoire. Alors qu'il était un jeune berger, il s'est battu contre les géants philistins Goliath. Simplement avec une fronde et une pierre polie. Et peut-être que beaucoup se rappelleront de son plus grand échec, son adultère avec Bathsheba et le meurtre de son mari Uri le Hittite. Le roi David est un homme extraordinairement courageux, rempli du Saint-Esprit. Mais il est tombé dans le piège de Satan. De grands artistes l'ont sculpté ou peint. Michel-Ange l'a également sculpté. Beaucoup ont donné son nom à leur fils. Le meilleur ami que l'Afrique n'ait jamais eu, David Livingstone, a été ainsi nommé d'après le David biblique. Dieu a décrit David comme un homme selon son cœur. Le roi David reste l'un des plus grands hommes de la Bible et de toute l'histoire. Ses succès sont des exemples d'excellence pour nous. Mais également, ses échecs sont des avertissements pour nous tous. Si vous avez réussi à éviter d'être pris au piège par les péchés qui ont piégé David, alors vous pouvez continuer à veiller, à être averti. 1 Corinthiens 10, 12 dit: ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Si tu es tombé dans le même gouffre, alors sois encouragé. Il y a une rédemption en Christ. Il y a du bon dans le pire en nous. Et il y a du mal dans le meilleur d'entre nous, parce que nous sommes des créatures déchues. Et alors, n'importe quelle bonté, ce n'est que la grâce de Dieu. Mais il y a du meilleur dans le, il y a du mal dans le meilleur d'entre nous, parce que nous sommes des créatures déchues. Jérémie 17, versets 9 à 10 dit: le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément méchant. qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, je sonde le cœur. J'éprouve l'esprit pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Alors que les Israélites ont demandé un roi pour copier les nations qui les entouraient, Dieu a dit à Samuel d'avertir le peuple. Un roi voudrait un palais et une armée. Et donc, suivrait des taxes et des conscriptions et la conscription. Lorsque les Israélites ont persisté en exigeant un roi, Samuel leur a donné le genre de roi qu'ils voulaient. Grand, beau, fort et puissant au combat. Samuel 9, 2 dit: il n'y avait pas une personne plus belle que lui parmi les enfants d'Israël. De ses épaules, il était plus grand que n'importe qui d'autre par sa stature. Saül s'est avéré un chef de file couronné de succès au combat. Il a combattu contre les Philistins, les Amalécites et les Ammonites. Cependant, bien qu'il ait bien commencé, il est devenu fier et présomptueux. Saül a violé la séparation entre le rôle d'un roi et celui d'un prêtre. Il a présumé offrir le sacrifice à l'autel de Dieu. Saül a également désobéi lorsqu'il a reçu l'ordre de détruire le méchant roi Agag et les Amalécites. Les relations de Saül se sont détériorées. Tout d'abord, avec son fils Jonathan, et Saül l'a condamné à mort pour avoir désobéi à une instruction complètement ridicule, une instruction dont son fils n'était même pas au courant. Ce n'est que grâce à l'action ferme de forte de son armée que Saül a pu être empêché d'exécuter son fils injustement. Et la relation de Saül avec le prophète Samuel s'est également détériorée de manière drastique. En réponse à la désobéissance répétée de Saül au commandement du Seigneur, Samuel a déclaré: donc dans 1 Samuel 15, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Car la rébellion et comme le péché de la sorcellerie. L'entêtement est comme l'iniquité et l'idolâtrie. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur et t'as également rejeté en tant que roi. Le rituel ne remplace pas la justice. L'obéissance vaut mieux que n'importe quel sentiment religieux. Et donc Dieu a rejeté Saül. Est-ce que vous faites confiance à Dieu? Et vous lui obéissez de suite de tout votre cœur? Ou est-ce que vous êtes rempli de rébellion? Et c'est comme la sorcellerie ou l'idolâtrie. La relation du roi Saül s'est détériorée également avec le jeune David. Ce jeune berger qui avait courageusement défié le roi, le géant Goliath, il avait vaincu au combat. Le roi Saül est devenu jaloux et cette relation s'est détériorée. Saül était peut-être physiquement un homme grand, mais il était un homme faible à cause de cela. Il est devenu craintif, jaloux et en colère. Sa jalousie et sa haine de David ont déformé ces dernières années. En tant que roi, elles l'ont distrait de ses fonctions. Cela l'a dévié de son devoir. Finalement, le roi Saül est descendu à la recherche d'une sorcière à Endor. Le roi Saül est mort dans la disgrâce et la défaite en se suicidant sur le champ de bataille. Là où trois de ses fils sont également morts, Saül a laissé sa nation dans la défaite, divisée et en disgrâce. Donc, le premier livre de Samuel se concentre sur le choix de l'homme contre le choix de Dieu. Le deuxième livre de Samuel se concentre sur le choix de Dieu pour le roi David. Dans 1 Samuel 16, 7, nous lisons: Mais le Seigneur dit à Samuel, ne regarde pas à son apparence, ni à sa taille physique, sa stature, car je l'ai rejeté. Car le Seigneur ne voit pas comme l'homme voit. L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde au cœur. Qu'est-ce que la Bible entend par le cœur? Dans Matthieu 15, 19, il est dit: Car c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. le cœur considère, connaît, comprend, réfléchit, se souvient. C'est le centre émotionnel. Le cœur éprouve de l'anxiété, de la douleur, du chagrin, du désespoir, du courage, de la joie. Les Écritures révèlent qu'une personne peut avoir un cœur mauvais, être impie, être pervers et trompeur de cœur. Mais Dieu révèle le cœur. Mais nous pouvons également aussi avoir un cœur Dieu parle également de ceux qui sont trompeurs dans le cœur ou qui sont endurcis. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons aussi avoir un cœur nouveau. Et nous pouvons avoir un cœur pur. Dans Proverbes 4, 23, il déclare: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Car il est comme les pensées de son âme. Dans Romains 10, 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. David est le personnage le plus divers de la Bible. Un berger, un musicien, un soldat, un auteur de la plupart des psaumes, un fugitif et un hors-la-loi, et le plus grand roi d'Israël. Il était athlétique dans sa posture, un musicien doué. Il avait un talent pour la poésie qui était de haut niveau. David est l'une des figures les plus marquantes de l'histoire du monde. Il y a plus d'espace donné au personnage de David qu'à toute autre personne dans l'Ancien Testament. Il est décrit comme un homme selon le cœur de Dieu. Les psaumes sont appelés le trésor de David. C'est le plus grand livre de la Bible. Le livre du milieu de la Bible. Le livre de prière et le livre d'hymnes de la Bible. Notre Seigneur Jésus-Christ a cité plus de psaumes que tout autre livre de la Bible. David était le plus jeune des huit fils d'Isaï. L'histoire de David et de Goliath doit être l'une des plus connues de la Bible. Goliath de Gath mesurait 9 pieds 6 pouces. La pointe de sa lance pesait 10 kilos. Le roi Saül et tous ses soldats étaient consternés, terrifiés lorsqu'ils ont vu David. Seul le jeune David, le jeune berger, était prêt à descendre dans la vallée de l'ombre de la mort pour affronter ce géant. Alors pour affronter ce géant, il n'avait aucune cuirasse, juste un manteau de berger. Sans lance, ni bâton, ni épée. Juste un bâton de berger et 5 pierres lisses. David est venu au nom du Seigneur. Comme Goliath s'est appuyé sur son épée et sa lance, David s'est reposé sur le nom du Seigneur. La victoire de David sur Goliath représente le type de victoire de Christ sur Satan. Et David, sa victoire contre Goliath incarne notre appel à être plus que vainqueur par le Christ Jésus, notre Seigneur. Dans Jacques 4, verset 7, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il vous fuira, et il fuira loin de vous. Donc Saül et David ont tous les deux régné sur Israël pendant 40 ans. Et pourtant, Saül a été décrit comme un échec. David Saül est un échec. Et David est décrit comme un succès. Ce n'était pas que David était parfait. Mais il a confessé de tout son cœur. Et lorsqu'il a péché, il s'est repenti de ses péchés contre le Seigneur de tout son cœur. David a fait preuve d'humilité, de fidélité, de patience et de courage. Lorsqu'il était sans cesse attaqué par Saül, il a refusé d'assassiner le roi loin de Dieu. Et pourtant, Saül était un roi terrible, méchant. David a fait confiance à Dieu et a laissé Dieu intervenir. Et Saül, à l'inverse, a été un roi qui a atterri dans la destruction. David a remporté de glorieuses victoires sur ses ennemis. Et il nous a laissé quelques-uns des plus grands chants d'adoration qui n'ont jamais été composés dans l'histoire. Les psaumes de David ont inspiré les prières et l'adoration du peuple de Dieu pendant plus de 3000 ans. Après la mort de Saül, David fut nommé roi de Judée. Pendant 7 ans, et ensuite roi de toutes les 12 tribus pendant les prochaines 33 ans. 33 années. Il a conquis Jérusalem des Jébusiens et en a fait la nouvelle capitale de la nation d'Israël. Lorsqu'il a cherché à amener l'arche de Dieu à Jérusalem, cela a indiqué un désir d'avoir Dieu au centre de la vie politique et culturelle de la nation. Cependant, la sincérité ne suffit pas. Ni David, ni les prêtres n'ont suivi les instructions spécifiques de Dieu sur la façon dont l'arche devait être transportée. Et alors, à cause de cela, Uzza a été frappé à mort pour avoir tendu la main et touché l'arche. Ici, nous voyons que ce n'est pas ce que nous pensons, mais ce que Dieu dit qui est important. L'arche ne devait pas être transportée sur un char à bœufs. Mais cela devait être porté par des prêtres sur des poteaux. Il y a une voie qui semble droite à l'homme, mais sa fin est la mort. C'est la mort. Dans 2 Samuel 11, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David est tombé dans le péché. À une époque où les rois devaient se mettre en bataille. Certaines batailles David est également donc est tombé dans le péché en restant à Jérusalem. Et bien que la repentance de David était sans réserve et sincère, ce terrible épisode de David avec Bathsheba confirme la vérité qui est dans Nombre 32-23. Sachez que votre péché vous retrouvera. Et dans Galates 6-7, ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Le bébé est mort. Et le fils de David, Absalom, a semé la division et a conduit la nation à la guerre civile. Et beaucoup de morts et de destruction ont suivi. Méfiez-vous lorsque vous pensez que vous êtes debout, de peur de tomber. Quand Dieu vous donne quelque chose d'important à faire, Satan est obligé d'envoyer quelqu'un pour te distraire, pour te faire perdre ton temps et pour te faire même dérailler. Donc, nous lisons qu'un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Et il n'y a que deux autres fois dans la Bible où une femme est décrite aussi belle. la reine Esther et Rachel. Et David envoie des gens pour la chercher. Et alors, il a essayé de trouver un plan pour cacher cette tâche. Alors, il fait appeler Uri pour lui demander un rapport. Et parce que cet homme ne veut pas aller dormir chez lui, alors il envoie un messager pour le faire tuer. Et alors nous lisons qu'il a pris Bathsheba pour être sa femme. Et elle lui a enfanté un fils. Mais l'action de David a déplu à Dieu. Dans 1 Corinthiens, nous lisons que Dieu n'était pas content j'ai pas compris. Toutes les générations qui sont sorties d'Égypte sont mortes dans le désert, à part deux familles, celle de Josué et Caleb. Donc, l'Écriture n'exagère pas les choses. David n'était pas satisfait avec la plupart d'eux, puisqu'il n'y a que deux qui sont rentrés dans le pays promis. Le Seigneur n'était pas satisfait de ce que David avait fait. Même le cœur qui était à l'image de Dieu a chuté. Cela devrait être un avertissement pour chacun d'entre nous. David a eu du temps pour se repentir. Et donc, dans 2 Samuel 11, on entend que Dieu a envoyé Nathan pour le réveiller. Il y avait deux hommes dans une ville, un qui était une personne riche et une personne pauvre. Et l'homme riche avait beaucoup de troupeaux, mais le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis. Une petite brebis qu'il avait achetée, il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait son pain, buvait dans sa coupe. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Quand David a entendu cela, il était rempli de colère. Et il a dit, l'homme qui a fait cela mérite de mourir. Et Nathan lui a dit, tu es cet homme-là. quelque chose de très courageux de la part de ce prophète. Il est en train de corriger ce roi qui avait le pouvoir de la mort ou la vie, et il aurait pu l'exécuter. Et Nathan lui dit, celui qui a fait cela mérite... Non, David a dit, celui qui a fait cela mérite la mort. Nous avons besoin de pasteurs qui confrontent les leaders, les hommes politiques, les municipalités, en osant leur dire « Vous êtes cet homme ». Et Dieu a parlé à David au travers de Nathan. « Je t'ai oint pour être sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître et toute la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé. Et David a répondu, « J'ai péché contre le Seigneur, contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. » La repentance de David était immédiate et le pardon de Dieu, sa miséricorde, était immédiate. Est-ce que tu apprécies ce que Dieu t'a donné? Le péché et la convoitise commencent lorsque nous manquons de reconnaissance. Lorsque nous ne sommes pas satisfaits par ce que Dieu nous a donné. Et c'est là que la convoitise, le vol, l'adultère commence. Le manque de gratitude est un rituel. Le Seigneur a dit à David, et si cela n'avait pas été assez, je t'en aurais encore donné. Combien nous passons à côté lorsque nous ne mettons pas Dieu en premier. Dieu pourrait te donner bien plus dans ton ministère. Si tu faisais les choses à sa façon. Lorsque nous avons entendu du témoignage d'Anclerlo, Dieu dit, il veut tant nous donner, mais il veut que nous répondions à son appel. La vraie, réelle repentance, c'est ce qui doit être ranimé en nous. Le péché de David a donné l'occasion à l'ennemi de le blasphémer. païens sont contents lorsque les hommes de foi, Dieu tombe. David a supplié de ne pas faire mourir l'enfant. Il a pleuré pendant 7 jours. Il a refusé de manger. Il a supplié, il a crié à Dieu. Et le 7e jour, l'enfant est mort. Les servis de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait, « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort, il s'affligera bien davantage ?» Et David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Et ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se leva de terre, se lava, soigna et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel pour se prosterner. Alors quand ses serviteurs lui ont demandé pourquoi il agissait ainsi, il a dit, « Puis-je le faire revenir ? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » Ici, cela nous montre que Dieu accorde la vie éternelle à ses tout petits enfants qui meurent en tant que bébés. Il verrait son fils décédé au paradis. Et ici, nous voyons ce qui est la vraie repentance. Le péché est toujours contre Dieu, contre sa loi, contre son caractère sacré. Le péché est la rébellion contre le Créateur. Le péché est une transgression, franchir la ligne et manquer la cible, violer les normes de Dieu. Nous ne devenons pas pécheurs parce que nous péchons. Nous péchons parce que nous sommes pécheurs. La corruption intérieure et la méchanceté des intentions conduisent aux transgressions. Et cela est un problème que nous devons faire face et confronter dans notre prédication et dans notre conseil. Que faisons-nous lorsque le peuple de Dieu pêche ? Abraham a menti sur le fait que Sarah était sa femme en disant qu'il était sa sœur. Le roi David a commis l'adultère et le meurtre. L'apôtre Pierre a maudit et a renié le Seigneur. Lorsque le Seigneur a été arrêté, tous ses apôtres se sont enfuis. Alors que nous apprenons sur un grand homme de Dieu, Samson, le compromis moral nous rend vulnérables. La tentation est offerte dans des emballages très attrayants. Le péché vous mènera plus loin que vous ne le souhaitiez. Le péché vous gardera plus longtemps que vous ne le souhaitiez. Le péché vous coûtera plus que ce que vous ne voulez payer. Pensez-vous que cela ne pourra jamais vous arriver? Vous sentez-vous moralement supérieur au roi David? Avez-vous déjà eu des pensées de convoitise sur le serment sur la montagne? Il dit, si vous regardez dans la convoitise, vous êtes, c'est pur, c'est pire que de l'adultère. As-tu déjà détesté quelqu'un? Jésus dit que ceux qui haïssent sont coupables de meurtre dans leur cœur. Nous essayons si souvent de rationaliser et d'excuser notre comportement. Le roi David a peut-être rationalisé en pensant qu'il avait tant risqué pour le royaume de Dieu. Il avait tant souffert et sacrifié dans ses combats. Il méritait une certaine indulgence. Sans doute, David avait résisté à bien des tentations. Il aurait pu être fatigué après tant d'années de responsabilité et de combat. Il avait vu tant de morts et de destructions au combat. Sans aucun doute, il était confiant et téméraire parce qu'il avait vaincu Goliath et pouvait faire face aux tentations. On pourrait assumer que Bathsheba s'est peut-être baignée sur le toit à la vue du palais avec l'intention d'attirer l'attention du roi David. Mais nous sommes tous responsables de nos actions et des choix de nos actions, de nos réactions. Il n'y a aucune tentation qui ne survienne où le Seigneur ne nous donne pas l'occasion d'échapper. Nous ne devons jamais rationaliser et excuser nos mauvaises attitudes. L'insatisfaction à l'égard de la volonté de Dieu a rendu David vulnérable face à la tentation. Nous ne devons jamais être assez stupides pour être aussi crédules et croire les mensonges et la tentation de Satan qui peuvent rendre attrayantes les tentations. Regardez à la vie de Samson. Il était physiquement si fort devant les hommes et pourtant il était si faible devant la tentation. Il pouvait frapper des centaines d'hommes avec un os. Il pouvait lever les porteaux de la porte. Et pourtant, il a chuté face à Delia et la stupidité du péché. Le résultat a été la honte, la défaite et le désastre. Samson nous rappelle que le péché lie. nous lie. Le péché nous aveugle et le péché nous broie. Nous devons nous rappeler que Dieu donne le meilleur à ceux qui lui laissent le choix. Nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée. Et nous devrions craindre Dieu. Ne craignez pas l'homme qui ne peut que tuer le corps, comme Jésus l'a dit. Craignez Dieu qui peut détruire à la fois le corps et l'âme en enfer pour toujours. Nous devons craindre Dieu seul. Nous devions fuir la tentation. Comme Joseph qui a fui la femme de Potiphar, nous devons également fuir la tentation. Nous devons reconnaître que la meilleure façon de résister à la tentation, c'est de fuir. Alors, que devons-nous dire à ceux qui ont chuté, qui sont tombés dans les griffes du diable? Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Ésaïe 57, 7. Que le méchant abandonne ses voies, qu'il puisse retourner à Dieu et le Seigneur va écouter ce Dieu qui pardonne en abondance. Joël 2, 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Ézéchiel 18, verset 20. Par la justice qu'il va vivre. Osée 6, verset 1. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. L'Éternel, il va nous raviver et il va nous relever. Il viendra vers nous comme la pluie. Zacharie 1, versets 2 et 3. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Dans Acte 17, Dieu commande tout homme de se repentir. Qu'est-ce que la repentance? La conviction? La conviction du péché. Le Saint-Esprit lui ouvre les yeux sur la gravité de violer les commandements de Dieu. Un changement de pensée. La contrition, c'est un changement de cœur. Le Saint-Esprit transforme notre cœur en une tristesse selon Dieu pour avoir offensé ce Créateur aimant. Nous arrêtons d'excuser notre péché, nous le condamnons. Nous arrêtons d'aimer notre péché, nous le haïssons. Et ensuite vient la conversion, la transformation. Le Saint-Esprit redirige nos pieds pour abandonner le péché et faire la restitution requise par Dieu. La repentance, c'est la conviction, la contrition et la conversion. Un changement de pensée, de cœur et de vie. La repentance n'a pas besoin d'être longue et traînée en longueur. Le collecteur d'impôts, quand il est sorti du temple pardonné, il a dit: que Dieu soit miséricordieux envers moi, pécheur. Et alors Jésus a dit: il est sorti du temple pardonné. Le fils prodigue a été accueilli par son péché, par son père, parce qu'il a dit: j'ai péché contre toi et contre le ciel et contre toi. Dans Psaume 51, nous lisons un exemple de réelle repentance. C'est ce que Nathan a ce que David a écrit après que Nathan l'ait confronté. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta grande miséricorde. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Lave-moi, purifie-moi. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Je me rappelle lorsque Saül s'est détourné de Dieu, Saül a été rempli d'un esprit maléfique. Il a retiré l'Esprit Saint. Et alors, ici, David supplie que Dieu ne retire pas son Esprit Saint, comme il l'avait fait avec Saül. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Comme le Père a envoyé le Seigneur, il nous envoie également avec ce message de repentance. Notre priorité est la repentance, parce qu'il n'y a que la repentance qui donne cette attitude de louange devant Dieu. Ô Dieu de mon salut, ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Tu ne prends point plaisir aux holocaustes, sinon je t'en aurais offert. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. La meilleure louange que nous pouvons offrir à Dieu est de reconnaître sa sainteté et reconnaître notre vie de péché. Une réelle repentance est une réelle louange. La seule façon de s'approcher du grand Dieu, c'est par une attitude de repentance et de contrition. La repentance sans réserve jette les bases d'un véritable culte. Dieu, aie pitié de moi, un pécheur. Et le meilleur, et le résultat de cette repentance est le pardon, la rédemption, la purification, la restauration de la relation avec Dieu, la paix avec Dieu et la liberté. Dans 2 Rois 22, nous lisons « Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant moi aussi, je t'ai entendu, dit l'Éternel. » Luc 15, 7, il y aura plus de joie dans le Seigneur pour un seul pécheur qui se repent. Psaume 34, verset 14, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Verset 18, pardon. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans cette grâce dans laquelle nous tenons, nous glorifierons pions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et nous savons que nos tribulations, nos afflictions produisent la persévérance. Et la persévérance produit la patience. Et la force de caractère. L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous allons être sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Mais le cadeau est venu par la justification. Nous avons reçu une grâce abondante et le don de justice. C'est un don gratuit. Jésus a souffert pour nous et nous a laissé un exemple à suivre. Il s'est humilié. Et alors, comme il a été envoyé, nous sommes envoyés. Dans Jean 8, verset 7, celui qui est sans péché et qui jette la première pierre. De même, je ne vous condamne pas, allez et ne péchez plus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La joie du Seigneur est notre force. Est-ce que tu entends le défi du Seigneur? Qui vais-je envoyer et qui enverrai-je? Peux-tu répondre « Ici, je me tiens, envoie-moi ». City Stud, qui était un champion de cricket, a dit « Je veux me tenir à la porte de l'enfer et sauver Jésus nous envoie. » Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour David. Merci pour les psaumes. Seigneur Dieu, nous te prions. Enseigne-nous comment nous repentir réellement et enseigne-nous à transmettre ce message à un monde perdu. Seigneur, nous te remercions parce que alors que nous étions pécheurs, tu es mort pour nous. Seigneur, nous te remercions pour ton message de rédemption. Pour un peuple perdu et en rébellion qui ne vivait pas pour toi. Seigneur Dieu, accorde-nous une vision de ce monde perdu qui a désespérément besoin de ce salut. Aide-nous, Dieu, à le vivre et à le proclamer. Par ce que nous faisons et par ce que nous disons, en parole et en acte, par nos lèvres et par notre vie. Nous prions tout cela en ton nom précieux. Amen. Lorsque nous l'avons visité la semaine dernière, mardi, et nous l'avons vu coucher dans les soins intensifs après cette attaque, c'est un miracle de le voir ici. Donc Dieu réellement voulait réellement entendre que nous entendions ce culte. Nous allons demander à nos frères allemands de prêcher. Bonjour à chacun, prions. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous as tous conduits ici pour entendre ces mots. Nous voulons te remercier parce que nous pouvons prendre ce temps pour nous tenir sous ta parole. Nous te prions que tu puisses œuvrer et que tu puisses continuer à travailler dans notre cœur et nos pensées. Tu es un Dieu qui nous envoie. Seigneur, aide-nous à non seulement entendre, mais que nous puissions aller le vivre et le proclamer. Nous te demandons d'aller avec nous bénir notre communion et la nourriture que nous allons prendre ensemble. Reste avec nous, guide-nous et bénis-nous. Amen. Donc c'est 11h30. On essaie de se retrouver à 11h30. On va tout essayer pour revenir à 11h30. Merci, que Dieu vous bénisse.